Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le 22 janvier dernier entrait en vigueur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires élaboré sous l'égide de l'ONU. Au regard du droit international, les armes nucléaires deviennent ainsi illégales puisqu'elles sont désormais interdites purement et simplement. Le traité a été ratifié par 51 pays, il en fallait au minimum 50. 51 pays donc parmi lesquels ne figure aucune des 9 nations qui possèdent aujourd'hui l'arme nucléaire, de quoi évidemment s'interroger sur la portée de ce traité, valeur symbolique ou avancée véritablement historique, dans un contexte international où le contrôle des armements est particulièrement mis à mal, à l'exception du traité New Start de réduction des armes stratégiques conclu initialement en 1991 entre les États-Unis et la Russie, renouvelé en 2010 et qui vient d'être prolongé pour 5 ans jusqu'en 2026. Regard avec nos invités par téléphone, Marc Fineau, ancien diplomate avec de nombreuses années d'expérience dans les négociations multilatérales, tout particulièrement en matière de désarmement, aujourd'hui formateur au Centre de politique de sécurité de Genève, également vice-président de l'association Initiative pour le désarmement nucléaire. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie Collin, co-porte-parole de ICAN France, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, organisation prix Nobel de la paix en 2017. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio avec moi, Corentin Brusselin, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI et auteur de « La réduction des risques stratégiques entre puissances nucléaires » qui vient de paraître dans la série « Études de l'IFRI ». Bonjour.
Bonjour.
Le traité d'interdiction des armes nucléaires n'a donc pas été ratifié par les puissances nucléaires et il est peu probable qu'une nation nucléaire y adhère dans les prochaines années. D'aucuns parlent du TIAN, donc le traité d'interdiction des armes nucléaires, comme d'un traité qui canalise la frustration des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire et qu'il n'accomplit pas grand-chose d'autre. Marc Fineau, votre avis ?
Alors, cette frustration dont vous parlez, elle est réelle. Ces pays-là se sont engagés eux-mêmes à ne pas acquérir l'arme nucléaire il y a plus d'un demi-siècle, mais en échange d'une promesse de désarmement nucléaire par les puissances nucléaires. Donc, on voit bien que cette promesse-là n'a pas été tenue, en tout cas, elle n'a pas été entièrement. Et donc, ces pays-là recherchaient un autre moyen de favoriser ce cheminement multilatéral vers le désarmement nucléaire. L'histoire montre que aucun accord de désarmement dans les armes de destruction massive, biologiques ou chimiques, par exemple, n'a pu voir le jour sans une interdiction préalable. Ça a été le cas dans le protocole de Genève en 1925, qui a interdit l'emploi des armes biologiques et chimiques. Et ensuite, on a eu des conventions en 1972 pour les armes biologiques et en 1993 pour les armes chimiques qui sont parvenues à les éliminer. Donc, c'est la même logique, le même cheminement qui devrait être appliqué pour les armes nucléaires.
Corentin Brusselin.
Oui, le TIAN est entré en vigueur après la ratification de la 50e ratification. Qu'est-ce que ça change ? J'ai envie de dire, c'est ni purement symbolique, ni vraiment historique. C'est pas symbolique parce qu'il y aura des effets, des effets qui, à mon sens, peuvent être problématiques sur le temps long. On pourra y revenir. Et c'est pas non plus historique parce que c'est vrai qu'on associe le TIAN à l'ambition du désarmement nucléaire, son ambition affichée. Mais en réalité, c'est un traité qui ne désarme pas, qui est un traité qui condamne, un traité qui comporte de multiples interdictions sur lesquelles, là aussi, on peut revenir. Mais c'est un traité qui ne vérifie rien et dont l'ambition n'est pas celle-ci, en fait. C'est vraiment l'ambition d'une condamnation morale, comme ce que vient de dénoncer Marc Fineau. C'est un préalable, mais c'est un préalable qui a pour ambition d'entraver les gouvernements des États qui possèdent des armes nucléaires. La réalité et le problème fondamental, c'est que ça n'entrave que quelques-uns de ces gouvernements. Et donc, dans l'environnement qu'on connaît, l'environnement de rivalité de puissance, d'appétit de puissance qui s'exprime de manière de moins en moins inhibée, à mon sens, c'est un problème important de cette asymétrie, ce déséquilibre que cela crée entre ceux qui respectent la norme et ceux qui ne la respectent pas.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Corentin Brusselin, Jean-Marie Collin. Ce traité, il aura des effets. Lesquels ?
Oui, il va avoir des effets. Comme l'a dit Corentin, je suis heureux de l'entendre. Effectivement, ce n'est pas un traité qui est symbolique. Et là où je ne partage pas, il est pour nous historique et pour les États qui l'ont ratifié et signé. l'ONU ou le Comité international de la Croix-Rouge, il est historique, puisque c'est le premier traité multilatéral de désarmement qui est mis en place depuis un peu plus de 25 ans. Et ses effets vont être nombreux, parce qu'il va renforcer la norme internationale sur l'interdiction de posséder les armes nucléaires, d'utiliser les armes nucléaires, de les produire, de les fabriquer. Et puis si on va directement sur des effets sur les États qui possèdent des armes nucléaires, puisqu'on a souvent tendance à croire que le tir n'aura pas d'effet sur eux, il aura des effets diplomatiques, avec des obligations désormais pour les États qui les possèdent de se justifier pourquoi ils ne respectent pas le droit international, pourquoi ils ne mettent pas en application le traité de non-prolifération nucléaire, puisque je pense que c'est quelque chose que vos auditeurs doivent vraiment comprendre. Le TIAN et ce TNP sont vraiment liés l'un et l'autre. Et le TIAN est la mise en application du TNP. Et donc, comme Marc Finot l'a souligné, si le TIAN est arrivé, c'est aussi parce que ceux qui sont dans le TNP, ceux qui possèdent l'arme nucléaire, ne respectent pas pleinement, de bonne foi, le traité de non-prolifération nucléaire. Il y a aussi des effets au niveau, par exemple, de l'interdiction de financement, qui sera sans doute l'effet le plus important pour la France, par exemple, puisque désormais, les banques vont être incitées à respecter cette norme internationale. Et on voit qu'il y a un certain nombre de banques ou de fonds de pension à travers le monde. Alors, les banques en France s'interrogent, mais des banques à travers le monde ont d'ores et déjà appliqué cette norme et mettent en place une politique de désinvestissement. Donc, ces effets sont multiples, bien réels, vont s'accélérer et a bien pour objectif de désarmer les États qui possèdent des armes nucléaires ou ceux qui soutiennent une politique de dissuasion comme la Belgique où il y a des armes nucléaires, par exemple.
Alors, TIAN et TNP, traité de non-prolifération, c'est peut-être intéressant d'approfondir la question. Et au-delà, Marc Finot, l'ancien secrétaire américain à l'énergie, Ernest Moniz, en poste sous la présidence Obama, estimait récemment que les 5 puissances détentrices de l'arme nucléaire avaient fait une erreur en ne participant pas aux décisions aux discussions qui ont conduit à l'interdiction des armes nucléaires, regrettant la rupture du dialogue entre les États nucléaires et non nucléaires. Votre commentaire ?
C'est tout à fait exact. On voit d'ailleurs que chez certaines puissances nucléaires ou chez certains de leurs alliés, de l'OTAN, il y a aujourd'hui une forme de regret d'avoir boycotté ces discussions, ces négociations. C'était quand même le signe. Et là, la France était quand même en première ligne pour exercer cette pression contre les pays intéressés par cette négociation. Vous vous souvenez peut-être que lors de l'ouverture des négociations à New York, l'ambassadrice de Trump avait lancé l'idée d'une sorte de piqué, de grève pour empêcher l'accès à la salle de négociation avec une conférence de presse à laquelle participait un représentant de la mission française. Donc c'était vraiment une forme de pression et on a vu les puissances nucléaires osciller entre une forme de mépris, de volonté de minimiser ce mouvement mondial pour le désarmement nucléaire, en disant oui, c'est pas très grave, c'est un petit groupe d'excités, pacifistes, etc. Donc ignorons-les. Et de l'autre côté, une inquiétude réelle qui les a amenés à exercer ces pressions, y compris sur les pays qui s'apprêtaient à signer ou ratifier le traité.
Alors vous-même, Corentin Brousselin, dans l'étude que je mentionnais en introduction, vous soulignez la nécessité de communication, d'abord entre les puissances nucléaires, ce qui n'est pas forcément le cas non plus, et entre puissances nucléaires et non nucléaires.
Oui, le point de départ de cette étude, c'est le fait de dire que, au-delà de, par exemple, de l'entrée en vigueur du TIAN et donc d'une attention à la création d'une nouvelle norme morale dont on peut discuter des effets, il y a des problèmes réels qui se posent du fait, justement, des logiques renouvelées de compétition qu'on voit à l'œuvre, du fait d'avoir des puissances nucléaires qui montrent les muscles, qui prennent des risques, qui créent parfois des risques, qu'ils instrumentalisent en adoptant des comportements audacieux, voire provoquants vis-à-vis avec leurs avions, avec leurs forces navales, avec leurs sous-marins, qui font des tirs de missiles à titre de démonstration. Donc on voit qu'on a d'une part des puissances nucléaires qui montrent les muscles, qui prennent des risques, et donc on a un sérieux besoin de remettre à jour des logiques qu'on avait vues émerger au cours de la guerre froide, justement des logiques qui font qu'on maintienne un fil de communication entre les capitales qui se voient malgré tout comme des compétiteurs potentiels. C'est-à-dire que la coopération et la compétition ne s'opposent pas, mais qu'elles doivent, coexister. C'est un peu l'une des conclusions, ou c'est un peu l'un des points de départ, peut-être plutôt même de ce qu'a été la logique de maîtrise des armements au cours de la guerre froide. Cette reconnaissance qu'on a beau être opposé idéologiquement et avoir des intérêts assez nettement opposés, ils ne sont pas non plus totalement opposés, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt partagé à éviter le pire. Le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui que certaines de ces puissances, on a vu la Russie en Ukraine évidemment, on voit dans une moindre mesure la Chine pousser ses pions, on voit clairement des appétits qui s'illustrent, et donc ça pose de nouvelles questions sur comment est-ce qu'on crée un dialogue qui permet d'éviter de faire de la déconfliction sur les théâtres d'opération, qui permet de réduire les risques d'incompréhension, et comment est-ce qu'on prend en compte non seulement les risques traditionnels, conventionnels, nucléaires, mais aussi les risques importés par les nouvelles technologies sur lesquels on pourra également revenir.
Oui, tout à fait. On reparlera précisément de l'accord START, qui est un accord précisément de communication entre Russie et États-Unis. Je voudrais juste qu'on dise quelques mots, Jean-Marie Collin, sur la France puissance nucléaire depuis 1960. Elle considère le TIAN, donc ce traité d'interdiction des armes nucléaires, comme un texte inadapté au contexte sécuritaire international marqué par la résurgence des menaces d'emploi de la force, qu'il s'adresse exclusivement aux démocraties occidentales et ne servira donc pas la cause du désarmement, puisqu'aucun État disposant de l'arme nucléaire, on l'a dit, ne l'a signé, et qu'il fragilise finalement une approche réaliste d'un désarmement s'effectuant par étapes. Votre commentaire ?
Oui, c'est des mots effectivement qui ont été employés par le ministre Le Drian ou par la diplomatie française, mais c'est également les mêmes mots qui ont été employés par la Russie, les États-Unis, la Chine ou les Britanniques. Il faut bien comprendre aussi que ces cinq puissances ont aussi travaillé pour que le TIAN n'existe pas. Mmh. Et c'est là où quand même on peut s'interroger vis-à-vis des informations que Corentin Brustin vient nous dire, où effectivement on voit bien une montée en puissance, la volonté de montrer des muscles. Et en même temps, ces États, diplomatiquement parlant, sont d'accord pour interdire ou faire en sorte de créer une pression pour qu'un instrument qui permettrait de ramener une plus grande sécurité internationale soit créé. C'est quand même assez étrange. Et la France, c'est vrai qu'elle a été assez forte dans l'emploi d'un certain nombre de mots, notamment en traitant d'irresponsables 122 États qui avaient voté en faveur du TIAN. Donc voilà un peu le constat. Mais aussi, ce qu'on peut voir finalement, c'est que 3 ans plus tard, avec l'arrivée de ce traité, ces mots ont tendance un petit peu à diminuer, preuve aussi de l'efficacité et de la réalité de ce traité.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, quelques mots, et c'est important, sur le contexte dans lequel ce traité, le TIAN, est entré en vigueur le 22 janvier dernier. La question du désarmement a cristallisé les tensions récemment lorsqu'on ressurgit des discussions animées entre la Russie et les États-Unis sur le traité américano-russe. Et finalement, New START, Marc Fineau, conclu en 2010, enfin créé en 1991, comme je le disais en introduction, mais ensuite renouvelé en 2010, arrivé à expiration en février, c'est-à-dire ce mois-ci. Et finalement, donc, il a été prolongé de 5 ans jusqu'en 2026. Russes et Américains entretiennent toujours un climat de guerre froide. Et en quoi cette prolongation de New START est-elle importante, et que se passera-t-il en 2026, Marc Fineau ?
Évidemment, c'était une décision cruciale qu'a prise finalement Biden dès son arrivée à la Maison-Blanche. Contrairement à son prédécesseur qui avait tergiversé pendant des années, qui n'avait vraiment rien négocié avec les Russes dans ce domaine, si ce traité n'avait pas été prorogé, s'il avait cessé d'être en fonction, d'être en vigueur, il n'aurait plus eu aucun contrôle, aucune limite, aucune restriction sur l'arsenal des deux principales puissances qui, je vous rappelle, possède 90% des armes nucléaires. Et ça aurait été une perte aussi pour les États-Unis, parce que, comme vous l'avez rappelé, ce traité permet une vérification mutuelle, des inspections, des échanges de données. Et donc, ça aurait été une grande perte pour l'information pour les États-Unis sur les programmes russes. Donc, c'était vraiment le minimum nécessaire pour assurer cette continuité de proroger le traité. Mais en même temps, il y a un accord pour négocier la suite. C'est un successeur à ce traité. Et c'est là où, évidemment, les choses vont être compliquées parce que, de part et d'autre, il n'y a pas nécessairement la volonté de mettre sur la table toutes les armes ou tous les systèmes qui intéressent l'autre partie. Les Russes voudraient inclure les défenses antimissiles qu'ils considèrent comme un obstacle à leur capacité de riposte en cas de première frappe américaine. Les Américains aimeraient aussi inclure les armes non stratégiques, c'est-à-dire tactiques, surtout celles qui sont déployées sur le territoire européen de la Russie, qui sont en nombre beaucoup plus élevé que les armes tactiques américaines. Il n'y en a que 150 déployées dans 5 pays de l'OTAN. Mais donc il y a aussi les nouvelles catégories d'armes, comme les missiles hypersoniques, les missiles de croisière à propulsion nucléaire, les torpilles nucléaires, etc. Donc, on est dans une course aux armements actuellement, qu'on le veuille ou non, course technologique, et cette course, je dirais presque traditionnelle, entre système offensif et système défensif, puisque vous savez que la dissuasion repose sur, justement, la capacité de répondre à une première frappe, et que si cette capacité de riposte est anéantie, évidemment, c'est un encouragement à la première frappe.
Alors, Corentin Brousselin, un commentaire sur ce que vient de dire Marc Finot avec peut-être des éléments. Je retiens 90% des armes nucléaires sont partagées entre Américains et Russes. Après ça, côté chinois, il y a des choses qu'on ignore probablement. On est dans une course aux armements. En tout cas, ce traité START, alors on l'a bien compris, 2026, ça se prépare. Quelles sont les questions qui se posent autour de START et l'échéance. En tout cas, ce traité START, finalement, c'est donc Biden qui a contribué à son renouvellement. Après 4 années de présidence de Donald Trump, où on a vu les États-Unis se retirer du FNI, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, signé en 1986 entre Washington et Moscou. Retrait américain aussi du JCPOA, on en parlera probablement dans la deuxième partie de l'émission. Et puis l'annonce faite fin mai de l'administration américaine qu'elle quittait le traité ciel ouvert, Open Skies, qui autorise les pays signataires à survoler les territoires d'autres États pour s'assurer du respect des accords de désarmement. Donc finalement, beaucoup repose aujourd'hui sur le traité START.
Alors sur le traité New START, il faut bien distinguer le traité START de 91 et le traité New START de 2010. C'était un renouvellement qui n'aurait pas dû faire débat. Pour être tout à fait franc, ça a toujours, du point de vue des experts, des observateurs, il y avait une évidence qu'il fallait prolonger la durée de vie de ce traité. Maintenant, c'est comme l'a dit Marc Finot, c'est maintenant que les choses difficiles commencent, parce que c'est un peu de l'avis et de l'aveu, quelque part, des participants. C'est un peu le dernier traité qui prendra cette forme-là, en tout cas, de contrainte désarmement stratégique offensif. On espère que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, du point de vue russe comme du point de vue américain, on se rend compte qu'il y a très peu d'appétence pour rentrer à nouveau dans ce même type de contraintes, c'est-à-dire d'accepter des contraintes durables sur leurs arsenaux nucléaires. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. Du point de vue américain et du Congrès en particulier, les traités, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile à faire passer. On l'a vu en 2010 pour New START. Et même parce que à plus long terme, une des vraies questions, comme vous l'avez souligné, c'est la montée en puissance de la Chine et la manière dont les États-Unis peuvent essayer d'ouvrir une discussion avec la Chine, essayer d'entraver aussi cette montée en puissance, y compris nucléaire, et en parallèle accepter des contraintes vis-à-vis de leur propre arsenal face à la Russie. Donc il y a des points de tension qui sont multiples. Donc il y a beaucoup de choses sur la table. Est-ce qu'il faut avoir une discussion sur le volume global des armements nucléaires, ce que ne fait pas New START. New START, c'est uniquement les armements nucléaires stratégiques. Mais il y a notamment du côté russe pléthore d'armements nucléaires non stratégiques qu'il conviendrait de discuter et de contraindre. Est-ce que, comme on l'a dit Marc Finot, on prend en compte les armements défensifs ou les armements conventionnels stratégiques ? Là encore, ça pose beaucoup de questions. Très rapidement, pour rebondir sur un point qui a été, que je ne peux pas laisser passer, de l'étrangeté soulignée par Jean-Marie Collin sur le double langage, quelque part, des puissances nucléaires sur l'OTAN. Il n'y a pas de double langage. C'est un rapport à la norme et à ce qu'on veut espérer du droit international et à quel type de désarmement on veut promouvoir. Il y a un désarmement qui se fonde sur la réalité et un désarmement qui se fonde sur la morale. Et donc, les effets des uns et des autres sont radicalement différents.
Merci, Corentin Brousselin. On vous retrouve avec Marc Finot et Jean-Marie Collin. Après le journal, à tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur
Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'environnement de sécurité stratégique qui prévaut dans le monde. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Marc Fineau, ancien diplomate avec de nombreuses années d'expérience dans les négociations multilatérales, tout particulièrement en matière de désarmement. Aujourd'hui, formateur au Centre de politique de sécurité de Genève, également vice-président de l'association Initiative pour le désarmement nucléaire. Jean-Marie Collin, co-porte-parole de ICANN France. Et Corentin Brusselin, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, auteur de la réduction des risques stratégiques entre puissances nucléaires qui vient de paraître dans la série études de l'IFRI. Corentin Brusselin, on a terminé la première partie de l'émission. Vous souhaitiez revenir sur le traité d'interdiction des armes nucléaires et le terme de double langage qu'avait employé Jean-Marie Collin des puissances nucléaires par rapport à ce traité.
Pour revenir sur cette étrangeté qui, à mon sens, n'en est pas une, c'est encore une fois une question de priorité diplomatique et de la manière dont on peut utiliser au mieux le temps dont disposent les diplomates et les instances internationales, mais aussi les priorités en termes de risques concrets qui se présentent. On voit encore une fois des zones de friction entre puissances qui apparaissent, avec de nombreux risques précis d'escalade conventionnelle et dans tous les domaines également. Et donc, il y a un besoin impérieux de faire face, de répondre à ce risque-là et à ces problèmes particuliers. À l'inverse, le Tian propose un désarmement qui se fonde sur la morale, mais qui en fait ne désarme que les démocraties. Parce que la manière de procéder du Tian, c'est la pression par les opinions publiques, par les ONG, sur les parlements, sur les banques. La réalité de la mise en œuvre, on le voit bien à travers la manière dont ça a été décrit par Jean-Marie Collin, la réalité, c'est que ça ne s'applique qu'à une partie des États possesseurs de l'arme nucléaire. Et donc, on voit déjà aujourd'hui des États qui sont contraints par la règle de droit et qui jouent le jeu de la règle de droit pour des raisons importantes et parce que ça permet un ordre international plus juste, quelque part, accroître la pression normative sur les démocraties et au détriment, quelque part, de leur propre aptitude à se protéger, ça pose un problème, à mon sens, fondamental sur la manière dont on utilise la norme pour essayer de créer de la justice dans l'ordre international.
Alors, je ne sais pas si Marc Fineau et Jean-Marie Collin souhaitent répondre là-dessus ou si on avance dans le débat. Alors, Jean-Marie Collin ?
Je pense que c'est important. Alors, c'est vrai qu'on risque de faire un peu un ping-pong assez long, mais c'est un point extrêmement important. En fait, on a deux positionnements totalement différents. Ce que l'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que 5 États qui s'opposent militairement, qui sont en alliance, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, contre, entre guillemets, la Chine et la Russie, qui n'arrivent pas à avancer dans les armements nucléaires, s'imposent tous les 5 par différents discours, par différentes déclarations diplomatiques, qui sont endossées par ces 5 États, pour dire que finalement, ils s'opposent à un traité qui devrait amener à éliminer cette menace internationale. C'est ça qui n'est pas acceptable, qui n'est pas entendable. Et dans le même temps, ces 5 États jouent finalement avec la sécurité internationale en procédant à des actions dangereuses, comme Corentin Brusselin l'a souligné, avec de plus en plus de patrouilles aériennes au nord de l'Europe ou avec la présence de bâtiments pas très très loin des côtes françaises ou américaines. Voilà la vraie problématique. Et c'est ce qui montre bien que finalement que ces 5 États n'ont pas une vraie volonté d'aller au désarmement nucléaire. Parce que même s'ils peuvent rejeter le Tian, il n'y a pas d'action en même temps à travers le traité de non-prolifération nucléaire dans l'esprit de la bonne foi. Voilà toutes les vraies interrogations. Ce n'est pas la démocratie contre les régimes autoritaires, puisque dans le même temps, ces 5 États qui sont des États avec des régimes donc différents travaillent ensemble contre le Tian. Donc c'est un peu plus compliqué simplement de dire que c'est la morale contre les puissances autoritaires, mais encore une fois, le ping-pong pourrait être beaucoup plus long.
Alors effectivement, et si vous permettez, Marc Fineau, je ne vais pas vous proposer de répondre à nouveau pour éviter cette partie de ping-pong, mais avancer un peu et toujours sur cette préoccupation qui est celle du contexte international aujourd'hui. On en a dit quelques mots dans la première partie de l'émission à propos du traité New Start, la position de la Chine. On sait que Donald Trump, prédécesseur de Joe Biden, voulait inclure la Chine dans ce traité. La position de Pékin et de refuser d'abord, bien sûr, en estimant qu'elle est encore loin, la Chine, des stocks des deux autres États. Que sait-on précisément ?
Et alors, évidemment, il y a toujours un problème de transparence avec la Chine par rapport au système plus ouvert des États-Unis ou des pays européens, mais on a quand même de bonnes estimations et on sait que ces estimations place l'arsenal chinois à peu près équivalent de 2 à 3 % de l'arsenal combiné des États-Unis et de la Russie. Donc, il y a évidemment une différence de taille. Par ailleurs, la Chine a été l'un des premiers ou le seul pays membre du TNP et puissance nucléaire à avoir une politique de non-emploi en premier. C'est-à-dire qu'elle considère que ces armes nucléaires sont purement défensives, c'est-à-dire qu'elle ne les utiliserait que si elle était attaquée elle-même par des armes nucléaires. Il n'y a que l'Inde qui a la même politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Biden a inclus dans son programme électoral l'évolution de la doctrine américaine vers le non-emploi en premier. Et des signaux envoyés de Russie, montrent que la Russie pourrait éventuellement évoluer dans ce domaine, ce qui exercerait des pressions assez fortes sur la France et le Royaume-Uni, par exemple, qui pour l'instant n'envisagent pas de passer à cette politique. L'avantage, évidemment, d'avoir un ensemble de puissances nucléaires qui appliquent cette politique est de réduire le risque d'emploi, notamment de première frappe.
Alors, non-emploi en premier, Corentin Brousselin, il y a aussi tout ce qui est cyberattaque, intelligence artificielle. Est-ce que cette position est facilement tenable?
La position du non-emploi en premier, elle est déjà, elle suscite déjà un certain scepticisme de la part des observateurs. Hein, quand on observe, alors il y a une posture officielle de non-emploi en premier, effectivement, en Chine et en Inde, qui effectivement, correspond à une expression doctrinale et même, dans une certaine mesure, même si c'est en train de changer, à une configuration des capacités chinoises dans le domaine nucléaire. Maintenant, tout ceci, c'est en train de bouger. La Chine modernise à grande vitesse son arsenal nucléaire. En termes de quantité, ça n'aboutit pas effectivement à des effets démultiplicateurs, même si il y a un potentiel d'accroissement qui est assez considérable. Le problème que pose la Chine, c'est effectivement pas spécifiquement un problème nucléaire, c'est un problème beaucoup, beaucoup plus large, qui est un problème de montée en puissance militaire, c'est un problème d'appétit de puissance et même d'ambition affichée. Hein, quand on entend Xi Jinping dire qu'il considère qu'à l'horizon 2049, la Chine doit être une puissance militaire de premier rang mondial. Évidemment, du point de vue des États-Unis, ça ne passe pas inaperçu et que ça pose de nombreuses questions sur comment est-ce qu'on peut maintenir un rapport de force avantageux dans la perspective américaine, parce que de la puissance militaire américaine dépend de la sécurité d'un certain nombre d'alliés de la région qui observe ça avec la plus grande attention, qui sont des alliés par ailleurs qui ont signé le traité de non-prolifération nucléaire, qui se sont engagés à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Et donc, il y a un lien profond entre les garanties de sécurité offertes par les États-Unis à ces États, que ce soit le Japon, la Corée du Sud,
Taïwan.
Et Taïwan, absolument, et la retenue, quelque part, dont les uns et les autres ont décidé de faire preuve en s'engageant dans la voie du TNP. Ça pose également de nombreuses questions quand on considère le Moyen-Orient ou évidemment l'Europe. Donc, après, sur le non-emploi en premier, pour rebondir sur ce qu'évoquait Marc Fineau et très rapidement, du côté russe, on voit un intérêt pour ce qu'on appelle la dissuasion non nucléaire, mais de non-emploi en premier, on ne verra plus en Russie, à mon sens. Hein, il faut bien être clair. C'est-à-dire que la Russie considère maintenant qu'elle peut s'appuyer sur ses capacités non nucléaires pour essayer de dissuader ses adversaires. Par contre, à mon sens, on n'aura pas du tout et à aucun moment à nouveau de non-emploi en premier du côté russe.
Alors, vous parliez de la Chine qui modernise ses forces nucléaires. On peut à la Chine ajouter l'Inde, ça a été mentionné rapidement, la Corée du Nord, le Pakistan qu'on n'a pas encore mentionné. Alors, on voit bien dans les démocraties comme la Corée du Sud, Taïwan, les ambitions nucléaires être tempérées par la réalité politique. C'est évidemment très différent au Moyen-Orient. Jean-Marie Collin, le traité sur le nucléaire iranien a implosé. La question est de savoir comment, pour Joe Biden, renouer le contact avec Téhéran et peut-être sortir ce traité, en tout cas le remettre sur le devant de la scène avec un pays, là aussi, toujours dans la région, comme l'Arabie Saoudite, qui ne veut pas être en reste, et la Turquie, qui pourrait avoir envie de suivre. Le Moyen-Orient, c'est vraiment la région du monde où les tensions sont les plus fortes, Jean-Marie Collin?
Oui, c'est les plus fortes aussi, parce qu'il y a aussi une puissance nucléaire, qui est Israël, donc il faut aussi le rappeler, c'est important. Le JCPOA et cet accord de Vienne n'a pas totalement implosé, puisqu'il existe bien encore, il est soutenu par les États européens, par la Russie également, ou la Chine. Ce qu'il est à espérer, c'est que Joe Biden arrive à faire revenir les États-Unis dans ce traité, ou sur un accord parallèle qui reprendrait un certain nombre d'éléments, peut-être qui inclurait certains points concernant notamment la question des missiles balistiques, puisque c'est ce qui semble le plus préoccuper aujourd'hui les diplomaties internationales et notamment la diplomatie française. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est qu'entre 2015 et 2018, quand ce traité fonctionnait pleinement, nous avions une certaine sécurité dans cette zone qui allait dans le sens de se réinstaller pleinement. Et depuis 2018, donc la sortie des États-Unis, cette sécurité a tendance à largement diminuer et à créer un certain nombre d'interrogations, puisque les Iraniens aussi, pour faire pression, sont repartis dans la production de matières d'uranium enrichi, encore assez loin pour produire une arme nucléaire, mais en tout cas prennent un certain chemin. Donc on voit bien que la norme est importante et que tout est d'une certaine manière dans les mains des États-Unis pour faire revenir les Iraniens à travers cette nouvelle norme du JCPOA, qu'on pourrait appeler JCPOA+, pour pouvoir engager justement une certitude que l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire, même s'ils sont déjà engagés à travers le TNP, et puis aussi engager une vraie discussion que les États-Unis bloquent actuellement sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive sur la zone du Moyen-Orient, puisque c'est une des raisons aussi qui font que la conférence du TNP de 2015 a capoté sur la volonté des États-Unis avec Israël, puisque cette question-là était au cœur de ces enjeux-là. Donc, encore une fois, les États-Unis ont une vraie responsabilité et Israël, qui dispose de l'arme nucléaire, également.
Vous écoutez RFI, géopolitique.
Alors, les Américains qui ont une vraie responsabilité. Marc Fineau, l'Iran, c'est une question, est-il plus proche de la bombe qu'à la veille de l'accord de Vienne? Et que penser aussi d'une limitation du programme balistique iranien? Il y a un certain nombre de pays de la région qui ne pourraient que s'en réjouir. Il n'empêche que l'Iran n'est pas le seul n'a aucune envie d'être le seul à se laisser limer les dents, comme on dit. Il y aurait de mauvais missiles iraniens et de bons missiles et avions de combat saoudiens ou israéliens ?
Oui, exactement. L'Iran a parfaitement appliqué l'accord de Vienne jusqu'un an après le retrait américain. Donc à partir de 2019, il a commencé à envoyer des messages, notamment vers les Européens, qu'il fallait faire pression sur les Américains pour revenir dans l'accord et supprimer les sanctions qu'ils avaient imposées à l'Iran. Bon, ça n'a pas fonctionné, donc on peut espérer effectivement que Biden, avec une nouvelle approche, plus multilatérale, parviendra à revenir et à permettre un respect complet de l'accord, à la fois par les États-Unis et par l'Iran. Maintenant, cette question de l'élargissement du champ d'application de l'accord, évidemment, on en a discuté depuis le début. Et au départ, parce que j'ai quand même bien recherché l'histoire de la négociation, les Iraniens étaient plutôt intéressés à élargir ce champ parce que, du coup, ça réduisait un peu la pression sur le programme nucléaire et ils étaient prêts à envisager de discuter de toute une série d'autres domaines, y compris leur politique étrangère, leur action, leur présence dans la région et les missiles. Simplement, on s'est aperçu du côté américain et du côté iranien que si on allait dans cette voie, ça impliquait une forme de normalisation complète, puisqu'on arriverait à discuter de tout. Et qu'en plus, il y avait une nécessité d'élargir le champ des participants, c'est-à-dire d'avoir une négociation régionale sur ces sujets, impliquant, comme vous l'avez dit, l'Arabie saoudite, mais aussi Israël, la Turquie, l'Égypte. Donc ça n'est pas paru possible à ce moment-là, parce que les conservateurs dans les deux camps s'y seraient opposés. Aujourd'hui, il y a une possibilité, non pas d'en faire un levier pour revenir à l'accord de Vienne, mais pour parallèlement ou ultérieurement lancer des discussions régionales sur ces sujets. Alors, comme l'a dit Jean-Marie, il y a un cadre qui existe. Ce sont les discussions sur cette zone exempte d'armes de destruction massive, parce qu'il y a une conférence qui a été lancée en 2019 au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui doit se réunir chaque année, donc qui a été un peu reportée à cause du Covid, mais qui doit se réunir chaque année jusqu'à la conclusion d'un traité. Donc, dans ce traité, on doit aussi parler des missiles, c'est-à-dire des vecteurs d'armes de destruction massive potentielles, que seraient, en tout cas, certaines catégories de missiles. Et les Iraniens disent bien, d'ailleurs, qu'ils respectent eux-mêmes la résolution du Conseil de sécurité, qui leur interdit d'avoir des missiles capables d'emporter des armes nucléaires, et ça a été confirmé. mais que par contre, toutes les autres catégories de missiles à portée inférieure, qu'ils ont eux-mêmes limité à 2000 km, ça fait partie de leur système de défense dans un cadre régional, et que si on doit leur imposer des contraintes, il faut les examiner dans ce cadre régional.
Alors, en guise de conclusion, j'ai cette double question. Quels sont, d'après vous, Corentin Brucelin, les risques d'escalade nucléaire aujourd'hui dans le monde ? Est-ce qu'il y a, par ailleurs, une volonté d'éviter le pire ?
La question des risques d'escalade aujourd'hui, elle se décline de multiples manières. On voit encore une fois une appétence à prendre des risques et à assumer ces risques en plusieurs endroits, et pas simplement entre les membres du P5, mais effectivement aussi en Asie du Sud.
P5, les cinq pays détenteurs, enfin au Conseil de sécurité de l'ONU.
Les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU, absolument. Ces risques nucléaires, ils se situent, et c'est bien la difficulté, à l'articulation entre la compétition militaire au sens classique, qui est compliquée par l'implication de l'espace extra-atmosphérique qui fait l'objet de tous les appétits et aussi de multiples formes de rivalité, l'insertion du cyber, les armées sont de plus en plus et les sociétés sont de plus en plus dépendantes du cyber, donc ça crée des nouvelles formes d'exposition et de nouveaux leviers, et on voit ce sont des leviers qui sont utilisés quotidiennement par ces puissances-là dans leur rivalité. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle parce que ça brouillera encore certains de ces... Ça démultiplie le potentiel dans certains de ces champs, mais il y a beaucoup de fantasmes également autour de ce que tout ceci induit. Mais c'est aussi, à mon sens, et c'est le propos que j'essaie de tenir dans cette étude que vous avez mentionnée, c'est l'idée qu'on a besoin d'une approche qui connecte, en fait, pour réduire ces risques d'escalade nucléaire. Les risques d'escalade nucléaire ne surviennent pas de nulle part, ils ne surviennent pas au niveau nucléaire simplement. Un État ne va pas décider du jour au lendemain d'attaquer l'autre par le biais de ses armes nucléaires. On sait qu'on est déjà bien au-delà de ce risque-là. Et une crise nucléaire, ça commence au niveau concret, au niveau d'un théâtre d'opération, au niveau des incidents entre capacités, entre unités qui prennent des risques et qui se provoquent réciproquement. Et c'est déjà à ce niveau-là qu'il faut commencer à recréer du lien, réencourager le dialogue entre états-majors, parce que le dialogue entre armées, c'est particulièrement important. Trouver une manière d'impliquer la Chine dans ce discours-là, parce qu'encore une fois, comme ça a été mentionné, la Chine est très opaque et a fait marche arrière ou a refusé d'avancer sur chacun de ces dossiers qui, dès lors, ça a impliqué de faire preuve d'un peu de prévisibilité et de transparence.
Donc la Chine, priorité, Jean-Marie Collin ?
Oui, c'est évident qu'il faut plus de transparence de la part de la Chine, il faut aussi plus de transparence de la part des autres États, et oui, on est un peu plus dans une question de risque. L'horloge de l'apocalypse atomique est mise en place chaque année par un comité international de scientifiques, par cette fameuse revue qui s'appelle le Bulletin of the Atomic Scientists, dit qu'on est à 100 secondes avant un événement catastrophique symbolisé par notamment l'utilisation d'armes nucléaires. Oui, les risques sont plus importants aujourd'hui que par le passé, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le cyber, qui diminue le temps de réflexion, notamment simplement ça. C'est pas juste, on sait bien que il y a un certain nombre de sécurités qui sont mises en place, mais il y a aussi des éléments qui montrent que ces sécurités informatiques peuvent avoir un certain nombre de failles. Donc, on est devant une nouvelle fois, 2021, une obligation de travailler véritablement sur le désarmement nucléaire et de concentrer les diplomaties internationales, que ça soit véritablement une tâche active et non pas un point qui doit être mis de temps en temps à l'ordre du jour. Au mois d'août se tient la conférence du TNP. Il est attendu que la France agisse véritablement et respecte ses différentes obligations.
Merci Jean-Marie Collin. Je rappelle que vous êtes co-porte-parole de ICAN France, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, organisation prix Nobel de la paix 2017. Merci également Marc Finot, ancien diplomate avec de nombreuses années d'expérience dans les négociations multilatérales, tout particulièrement en matière de désarmement, et aujourd'hui formateur au Centre de politique de sécurité de Genève, et également vice-président de l'association Initiative pour le désarmement nucléaire, et Corentin Brucelin, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI et auteur de La réduction des risques stratégiques entre puissances nucléaires qui vient de paraître dans la série Études de l'IFRI. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Bonsoir à vous.